Même si le gouvernement de Justin Trudeau est minoritaire, il y aura continuité dans les discussions avec Ottawa. On pourrait même dire que le nouveau gouvernement minoritaire est à l'avantage des groupes qui attendent des décisions fédérales. Je me suis entretenu avec le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot. Monsieur Marcel Groslot, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Groslot, on est au lendemain d'une campagne électorale fédérale, portrait politique qui a changé, même si le gouvernement en poste devenu minoritaire est le même, c'est un gouvernement libéral. Comment vous voyez ce nouveau portrait politique à Ottawa?
On a eu à travailler avec un gouvernement minoritaire à quelques reprises. Bon, le gouvernement de M. Harper avait été minoritaire. Celui de Paul Martin aussi avait été minoritaire. Moi, je ne trouve pas ça désagréable de travailler avec un gouvernement minoritaire. Habituellement, ils ont une bonne écoute, sont assez attentifs à ce qui se passe. On peut utiliser l'opposition comme levier pour faire avancer nos dossiers davantage. Alors, moi, j'envisage ça pour les prochaines années d'un bon œil, là, d'avoir un gouvernement minoritaire à Ottawa.
Et il y a plusieurs dossiers qui sont toujours en suspens avec Ottawa. Peut-être le plus récent, là, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait parler beaucoup dans les médias électroniques également, les compensations au secteur laitier à la suite des ententes commerciales. Est-ce que ça, c'est le premier dossier, la première priorité, là, entre guillemets, que vous allez vouloir régler avec le gouvernement de M. Trudeau?
Je dirais, en termes de priorité, là, c'est la guerre commerciale avec la Chine, ou les impacts de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, puis les effets collatéraux que ça a au Canada. Les producteurs de porc sont très affectés, le secteur. S'il y a un arrangement entre la Chine et les États-Unis, peut-être que ça va s'amenuiser, là, mais depuis les mois que ça dure, l'impact sur les producteurs de viande, puis aussi sur les producteurs de céréales, notamment de canola, mais ça a un impact aussi sur les autres prix des céréales. Donc, je dirais la priorité numéro un, c'est celle-là. Je dis ça parce que les annonces au niveau du lait ont été faites. Il reste à attacher les compensations pour les prochains versements. Le premier versement est attaché, les autres sont à définir, mais l'annonce, elle est faite. Le montant accordé est connu. Ce qui reste dans ces secteurs-là, c'est pour la volaille. Alors, quelles seront les compensations pour le secteur de la volaille? Et le deuxième point, c'est au niveau des concessions futures. Il y a un engagement actuellement qui est clair qu'il n'y aurait pas de concessions supplémentaires dans le lait, mais il n'y a pas eu d'engagement semblable pour le secteur de la volaille et des œufs. Et ça, on l'attend. Alors, on sait qu'il y a encore la négociation avec le Mercosur qui se poursuit entre le Canada et les pays du Mercosur. Et il y a également une négociation à venir avec le Royaume-Uni lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Europe. Alors là, on aimerait entendre clairement qu'il n'y aura pas de concessions supplémentaires pour les produits sous gestion de l'offre, pas uniquement pour le lait.
Là, on est vraiment dans les dossiers chauds là, qui ont occupé l'actualité. De façon peut-être un peu plus discrète, là, mais de façon intense quand même dans le monde agricole, on est toujours préoccupé chez les agriculteurs et agricultrices par la question de sécurité, sécurité du revenu. Les marchés sont fluctuants. Il y a des contextes comme ceux que vous venez d'énoncer avec les guerres commerciales, avec les compensations, bon, tout ça. Mais la question des risques, est-ce que vous négociez actuellement avec Ottawa?
Suite à la conclusion du dernier cadre stratégique agricole, il y a un comité national qui avait été mis en place pour voir de quelle façon nos programmes de gestion des risques pourraient évoluer. Mais ce comité-là avait le mandat de faire cette analyse-là à coût nul. La conclusion des membres du comité, c'est que c'est impossible à coût nul et qu'il devra y avoir un réinvestissement en gestion des risques si on veut faire évoluer nos programmes actuels. Alors nous, on le répète depuis longtemps, AgriStabilité, qui est le programme principal au niveau national pour la gestion des risques en agriculture, avait été coupé en 2013. Nous, ce qu'on demande, c'est simple, c'est de ramener le programme à ce qu'il était avant 2013. Parce qu'à ce moment-là, il fonctionnait, ce programme-là. Et les producteurs y adhéraient, s'y abonnaient. Alors, la solution est relativement simple. L'autre engagement qu'on aimerait avoir du fédéral, ou les investissements supplémentaires, c'est au niveau de l'agro-environnement. Alors, on sait que les attentes sociétales sont importantes. Il faut se positionner dans les marchés avec des pratiques, puis je dirais, une qualité de produit qui va répondre aux attentes des consommateurs chez nous et ailleurs. Et ça, on a des améliorations, des avancées à faire au niveau agro-environnemental. Et à ce niveau-là, il y a peu d'investissements du fédéral qui viennent soutenir les démarches des provinces.
Souvent, on aborde ce dossier-là par le volet provincial, le volet québécois. Mais Ottawa a quand même un rôle de soutien financier de programmes qui irait justement à l'amélioration des conditions agro-environnementales, l'amélioration du bien-être animal, etc.
Bien, c'est ça que j'aimerais, moi, qu'il y ait un volet d'ajouter au cadre stratégique agricole. Puis en soutien à la politique nationale d'alimentation ou alimentaire qui a été lancée avant les élections et que ce soit volontaire pour les provinces d'y adhérer ou non. Les problèmes qu'on rencontre au niveau fédéral, lorsqu'on attend d'avoir l'unanimité des provinces pour mettre en place un programme, indépendamment de la capacité des provinces à y adhérer, ça fait en sorte que c'est facile pour le fédéral de dire « bien, il n'y a pas d'unanimité ». Moi, ce que je vais suggérer à Mme Bibeau, c'est mettez en place un programme au niveau agro-environnemental, mettez à la disponibilité des provinces des montants pour des programmes cadrés et laissez aux provinces la latitude ou la flexibilité d'y adhérer ou non. Et là, si le Québec veut y adhérer, il y adhérera. Si l'Ontario veut le faire ou pas, elle le fera. Mais ça sera une espèce d'effet levier pour déclencher des investissements à partir de nos provinces.
Donc, l'agro-environnement, un point chaud. Et immanquablement, ça me mène à vous parler de la question des pesticides. On peut s'attendre, mais cette fois du côté de Québec, à ce qu'il y ait encore, on peut les appeler comme ça, là, des resserrements de réglementaires concernant les pesticides. Vous, premièrement, est-ce que c'est ce que vous sentez venir? Et comment vous souhaitez que ce soit fait?
Bien, moi, je crois que même si on resserre la réglementation, ce n'est pas l'absence de réglementation qui fait qu'on utilise davantage de pesticides. Les pesticides sont disponibles en autant qu'ils soient homologués par l'ARLA. Et ça, le Québec n'a pas de pouvoir sur les produits homologués ou non au Canada. Donc, les pesticides homologués sont disponibles. Maintenant, la façon dont on les utilise, les bonnes pratiques agricoles, c'est difficile de réglementer ça parce que c'est propre à chaque secteur. Dans le secteur des céréales, c'est une chose. Dans le secteur fruitier ou dans le secteur maraîcher, c'est autre chose. Donc, moi, je ne crois pas que ça va passer par la réglementation. Moi, je crois plutôt que ça doit passer par l'accompagnement des producteurs de services professionnels compétents qui sont en mesure de recommander aux producteurs et d'accompagner les producteurs dans les bonnes pratiques agricoles. Nous, c'est ce qu'on recommande. Et ça, ce service-là devrait être en partie financé par l'État. Parce que si ça ne l'est pas, il y aura peu d'intérêt pour les producteurs d'y investir. Alors, c'est une conscientisation des producteurs par des services professionnels en partie fournis par l'État. Et de cette façon-là, on va faire évoluer nos pratiques agricoles.
Et dans ce contexte, vous ne souhaitez pas, bien sûr, comme vous l'avez déjà énoncé, que les agronomes aient l'entièreté, la totalité du contrôle de prescription des pesticides?
Non, parce que pour moi, c'est une façon de déresponsabiliser les producteurs. On confie la responsabilité de la prescription à l'agronome, puis l'agriculteur, en fait, n'a pas à faire la décision ou il participe moins à la décision. Alors moi, je crois que ça peut sembler une façon sécuritaire, un peu comme on le fait avec les médicaments. En prescrivant, on assure la sécurité du public. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que la prescription n'est pas la solution. Par contre, l'accompagnement par des services professionnels va nous amener à plus long terme à plus de résultats ou à de meilleurs, selon moi, de meilleurs résultats que la prescription.
Là, on se promène Québec et Ottawa. Je reviens à Ottawa rapidement sur cette question-là. L'Agence de réglementation de lutte antiparasitaire, l'ARLA, dont vous avez parlé brièvement il y a quelques instants, l'ARLA a été beaucoup critiquée au moment de la commission parlementaire à Québec. Et on ne peut pas parler de transparence dans le cas de l'ARLA. On ne sait trop sur quoi se basent les décisions, si ce n'est de dire que ce sont les documents essentiellement des fabricants de pesticides. Ça, souhaitez-vous que des changements interviennent du côté de l'ARLA?
Bien, je ne crois pas que l'ARLA utilise uniquement les données des entreprises. Lorsque d'autres données disponibles, elle les utilise aussi. Je crois que là où l'ARLA a manqué, c'est dans le processus de révision des homologations. Il avait pris du retard. Là, ils sont en train de le récupérer. Je le sais parce que l'ARLA consulte les producteurs ou les groupes de producteurs par rapport aux homologations ou à la révision des homologations à venir. Donc, moi, je pense qu'on a... faut faire attention à ne pas détruire la confiance qu'on peut avoir dans nos institutions. Il faut leur donner les moyens d'accomplir leur mission, mais détruire la confiance qu'on a en elles n'apportera pas une solution non plus. Là. Ça prend ce type d'organisation-là pour homologuer les produits au Canada. Mais souvent, ce qui fait défaut au Canada, c'est que dans certains cas, on n'a pas les derniers produits disponibles sur le marché, parce que le marché est relativement petit au Canada par rapport à d'autres pays, comme les États-Unis, par exemple. Et ça prend un certain temps avant que des produits de remplacement, quelquefois moins nocifs, arrivent sur notre marché, parce que ils ont pas, l'homologation coûte un certain prix, et ça fait en sorte qu'on n'a pas ces produits-là en même temps que d'autres compétiteurs. Là.
Mais tout en confirmant effectivement un rôle important à l'ARLA, sans démolir l'organisation, comme vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu quand même d'avoir un peu plus de fluidité, un peu plus de transparence dans les travaux de cet organisme-là et dans la possibilité d'accéder aux informations que détient l'ARLA?
Je ne suis pas dans le secret de la façon dont l'ARLA fait toutes les choses, là, mais selon moi, il y a beaucoup de l'information sur lesquelles se base l'ARLA pour rendre ses décisions. Elle est publique, elle est disponible. Il y a des études qu'elle utilise qui sont... Encore là, je ne veux pas m'avancer trop dans ce dossier-là parce que je ne connais pas parfaitement de la façon. Mais nous, ce qu'on a souhaité en commission parlementaire et ce qu'on a dit, c'est la confiance du public va être acquise si nous sommes transparents dans nos processus, à la fois dans nos pratiques agricoles, la raison pour laquelle on utilise tel ou tel produit, pourquoi on le fait. C'est la transparence et c'est valable aussi pour l'ARLA. Les gens vont avoir confiance en l'ARLA si l'ARLA est transparente dans la façon dont elle fait l'étude des homologations ou des révisions d'homologation. Alors moi, je compte beaucoup sur cette transparence-là pour conserver la confiance du public.
Et en terminant, je reviendrai du côté de Québec. On est toujours dans la mise en place de la politique bioalimentaire du Québec. Et jusqu'à maintenant, il y a eu peu de choses, beaucoup de petites choses, effectivement, qui bougent, qui se préparent, qui s'organisent. Mais qu'est-ce que vous souhaitez là, qui pourrait peut-être être accéléré dans la mise en place de cette politique bioalimentaire du Québec?
Bon, il y a eu 250 millions supplémentaires qui ont été annoncés en soutien à l'investissement. Ça s'est ajouté aux 185-10 millions qui avaient été annoncés précédemment. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce que je constate et ce qu'on a dit au ministre à quelques reprises et à la financière agricole, les programmes d'investissement vont fonctionner si l'environnement d'affaires offre une certaine sécurité. Et là, je reviens à la gestion des risques. On le voit, par exemple, il y a des gros investissements dans certains secteurs, mais ils sont faits par des grandes entreprises et peu d'investissements par des producteurs ou des fermes familiales, le porc notamment. Donc, moi, je crois qu'il faut revenir à offrir aux producteurs un environnement d'affaires. Puis je vais donner l'exemple de l'aluminerie. Les alumineries investissent au Québec parce que leur environnement d'affaires est compétitif par rapport à d'autres pays. Les coûts de l'électricité sont bas. C'est leur intrant principal. En agriculture, c'est la même chose. Si mes risques sont trop élevés, même si j'ai un programme qui soutient l'investissement, il se peut que je n'investisse pas. Alors nous, il faut travailler sur les deux volets. On a travaillé sur les programmes d'investissement. Maintenant, il faut travailler sur l'environnement d'affaires qu'on offre aux producteurs agricoles.
Et j'en rajoute une dernière à la dernière que je vous posais. La fiscalité municipale versus l'agriculture. Est-ce qu'il y a un groupe de travail en place? Est-ce que c'est fait? Le ministre et au gouvernement du Québec, ça fait quelques fois qu'on annonce que vraiment on va s'attaquer à une négociation sérieuse, véritable. Est-ce que c'est fait?
Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de table de travail, mais il y a eu des consultations pendant toute l'année. Le ministre devrait déposer un projet de loi incessamment pour modifier le programme de crédit de taxe foncière agricole. Dans ce projet de loi-là, selon les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, il devrait y avoir un mécanisme pour limiter la valeur taxable des terres agricoles sous certaines conditions. Également, la levée du plafond sur la croissance des dépenses d'une année sur l'autre. Donc, ça, c'est deux bonnes nouvelles. Alors, il nous restait à la question d'un taux distinct pour le secteur agricole lorsqu'il y a un transfert du fardeau fiscal du résidentiel vers l'agriculture. Ça, au moment où on se parle, c'est pas acquis. Mais pour moi, le taux distinct devrait être... actuellement, il est volontaire. Il devrait être, oui, volontaire, mais au-delà de certains critères, il devrait devenir obligatoire. Puis c'est une question de préserver l'intégrité du programme de crédit de taxe foncière agricole. Les taxes foncières agricoles devraient servir à compenser les producteurs pour les taxes qui augmentent rapidement dues à l'augmentation de la valeur des terres. Ils ne devraient pas servir à financer des services aux citoyens. Alors, c'est là où, selon moi, il y a la nécessité d'avoir une forme de mécanisme qui viendrait encadrer à quel moment le taux distinct s'appliquerait ou devrait s'appliquer dans une municipalité.
Parce que si on n'établit pas un mécanisme permanent et obligatoire, si on veut, pour les municipalités, on risque de perpétuer le problème encore qui va ressurgir et ressurgir encore.
Bien, c'est ça. C'est une façon d'assurer l'équité fiscale entre les agriculteurs et les citoyens d'une municipalité, d'avoir ces mécanismes-là. Puis c'est une façon de préserver l'intégrité du programme. Je répète, mais ce programme-là est pour rembourser une partie des coûts des taxes foncières agricoles parce que les agriculteurs ont besoin de beaucoup de terres pour générer leurs revenus. Un citoyen qui a sa maison avec son terrain, 50, 60 000 pieds, 40 000 pieds carrés, c'est pas la même chose, là. D'ailleurs, les agriculteurs sur leur résidence paient les mêmes taux que les autres citoyens. Il n'y a pas de crédit sur nos résidences. On est traités comme les autres citoyens. Mais lorsque les coûts de la Sûreté du Québec et d'autres coûts sont appliqués sur la valeur foncière et que dans une municipalité, c'est quasiment assumé à 100 % par la valeur foncière agricole et que c'est remboursé à 70 % ou à 85 % par le programme, en quelque part, le programme de crédit de taxe foncière agricole finance la Sûreté du Québec dans cette municipalité-là. Puis on sait que c'est pas sur les terres agricoles que la Sûreté du Québec passe beaucoup de temps, là.
Monsieur Marcel Groslot, un automne assez chaud quand même, d'après ce que vous venez de me dire dans les différents dossiers, autant du côté de Québec que d'Ottawa, mais peut-être pour quelques semaines, là, peut-être un coup d'œil plus prononcé du côté d'Ottawa, étant donné le nouveau gouvernement qui se met en place, là.
Le 20 novembre, on va connaître le nouveau Conseil des ministres. Alors, à partir de là, on pourra commencer à interpeller notre ministre, notre futur ministre de l'Agriculture, puis tenter de faire avancer nos dossiers. Au niveau fédéral, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec la Fédération canadienne d'agriculture, dont nous sommes membres. Puis au Québec, bien, on va continuer de travailler avec M. Lamontagne, puis on espère que pour le Congrès, M. Lamontagne aura de bonnes nouvelles à nous annoncer.
Merci, M. Groslot.
Ça me fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Revenons spécifiquement à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau a toute autorité pour choisir les membres de son cabinet. Mais à l'UPA, on souligne que la ministre Marie-Claude Bibeau, à Agriculture et Agroalimentaire, était une interlocutrice bien appréciée. Au revoir.